Commencez chaque journée les batteries bien rechargées avec Total Energy et le Brief.
Le Brief spécial.
Bonjour à toutes et à tous. Où est-ce que vous achetez vos vêtements ? Je vous pose la question très sérieusement car aujourd'hui, de nombreuses enseignes de prêt-à-porter connues sont en difficulté financière. Esprit, la dernière en date, a déposé le bilan ce mois-ci en Belgique. Avant, Naf, mais aussi Cassis et Paprika, avaient sollicité une procédure de réorganisation judiciaire. Et que dire de la marque Camailleux, qui a disparu pour le moment, et du paquebot H&M qui tangue. Bref, autant d'exemples qui nous interrogent sur les stratégies futures du secteur. Je suis Ondine Ouérès et vous écoutez le Brief spécial « Va-t-on vers une disparition de la mode moyenne gamme ?»
Un dossier chaud décodé par l'écho.
Pour en parler, je suis en studio avec Luc Van Driesch, journaliste spécialisé dans le commerce de détail à l'Écho. Bonjour Luc.
Bonjour Ondine.
Alors en ligne, nous avons avec nous Pierre Emblaine, vous êtes le fondateur de la marque belge de prêt-à-porter G&Joy, bienvenue.
Oui, bonjour.
Et enfin, Alain De Kropp, vous êtes professeur de marketing à l'université de Namur. Vous vous intéressez notamment au comportement des consommateurs, merci d'être avec nous.
Merci pour votre invitation.
Beaucoup de facteurs entrent en compte ici. Hausse des coûts, est-ce que c'est la faute de l'inflation ? Problème de positionnement, d'image, est-ce que c'est la faute de l'entreprise ? Désaffection des clients, est-ce la faute du consommateur ? En fait, soyons clairs, la chute de ces célèbres enseignes est certainement multifactorielle, mais elle nous interpelle. Prenons les choses dans l'ordre. Alain De Kropp, vous êtes professeur de marketing à l'université de Namur. Assiste-t-on à un éparpillement des clients entre l'appauvrissement de la classe moyenne, la concurrence chinoise comme avec l'enseigne d'ultra fast fashion Shein et l'omniprésence des sites de seconde main.
Mais vous citez là quelques facteurs qui peuvent certainement expliquer donc la chute de ces enseignes et la perte vitesse de la mode en moyenne gamme. Mais il ne faudrait certainement pas oublier ce qui est à mon sens le facteur principal, c'est que depuis une dizaine d'années, le marché stagne, le marché de la mode stagne et les gens consacrent proportionnellement moins d'argent à leurs achats de vêtements et de chaussures qu'il y a 5 ou 10 ans. Si on prend par exemple l'enquête sur le budget des ménages réalisée chaque année par l'INS, on voit qu'on est passé en 5 ans de 4,6% en moyenne consacré aux vêtements et aux chaussures par les Belges à 4% en 2022. C'est même 3,1%, rendez-vous compte, pour la Wallonie. Donc imaginez le nombre d'enseignes qui doivent se battre pour attirer et capter cette clientèle, que ce soit des enseignes bien sûr classiques, mais aussi en ligne. La concurrence est féroce et le marché stagne, ne grandit pas. Donc vous aurez vite fait l'équation, c'est difficile de résister.
Luc, vous qui suivez le secteur pour l'Écho, que disent les chiffres ? Les ventes d'Esprit, de Cassis et Paprika, est-ce qu'elles se sont affaissées ? Le commerce de vêtements en centre-ville ou même dans une galerie de grands magasins, est-ce qu'il a du mal à attirer les clients ?
C'est clair que dans le prolongement des explications de M. De Kropp, la situation des chaînes de milieu de gamme est devenue très difficile. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, elles sont clairement en recul. Cassis et Paprika, par exemple, est dans le rouge depuis 2015. Son endettement, je n'en parle pas, il dépasse les 60 millions. Esprit, de son côté, a surtout souffert en 2021 de la crise du Covid et a pu se reprendre en 2022, mais là aussi sans pouvoir sortir du rouge. Et même si la question des loyers est de plus en plus prégnante, le choix des lieux d'implantation n'est sans doute pas l'explication première de la perte de vitesse de ces chaînes. Elles souffrent surtout de la pression croissante des enseignes low cost et de l'ultra fast fashion auxquelles vous faisiez allusion, à Chine, Temu, on les connaît, on les connaît bien.
Oui, on va en reparler d'ailleurs. Et puis c'est vrai qu'il faut savoir se démarquer de la concurrence, peut-être même raconter une histoire, en tout cas faire comprendre quel client on vise. Et ce n'est pas si facile de définir puis d'appliquer une stratégie qui fera rayonner la marque. Vous en savez quelque chose certainement, Pierre Emblaine, vous qui avez fondé une marque de vêtements G&Joy.
Oui, moi, mon avis, c'est que les exemples qui sont pris ici et qui sont des sociétés qui ont beaucoup de problèmes ces moments-ci sont plutôt du moyen slash bas de gamme et qui, du coup, rentrent en très grande compétition avec le fast fashion qui est grandissant ces dernières années. Mon point de vue aussi, c'est que le Covid a changé beaucoup de choses, certainement pour les boutiques de mode en centre-ville. les chiffres d'affaires ont du mal à retrouver leurs chiffres d'avant Covid. Par contre, les coûts, eux, ils ont bien été indexés. On parle des loyers, des salaires, de la crise de l'énergie pendant tout un temps. Et donc, cette équation-là, je pense, devient effectivement très, très difficile à résoudre. On voit par contre que nous, dans nos clients, les boutiques plutôt multimarques et plutôt moyens haut de gamme qui se trouvent en périphérie des centres-villes, donc avec parking aisé et mobilité plus simple, ont beaucoup moins de difficultés que celles au centre-ville.
Et puis, il y a un autre aspect, c'est que particulièrement dans ce secteur, il faut rester tendance, il faut rester à la mode. Ça aussi, c'est pas forcément simple, Pierre ?
Non, il faut se renouveler sans cesse, il faut être attentif, il faut être innovant dans les matières. Je pense que le côté écologique aussi rentre de plus en plus dans la balance pour en tout cas notre type de clientèle, donc qui est quand même plutôt moyen haut de gamme. Et ce n'est pas toujours possible quand on parle de plutôt moyen ou bas de gamme.
À ce propos, question à tous les deux, Luc et Alain. Esprit, Camailleux, H&M, Cassis et Paprika, mais aussi Célio fut un temps. Est-ce que ces enseignes, elles souffrent d'une image indéfinie, peut-être devenue ringarde, passe-partout ?
Mais c'est vrai que l'image de ces marques est aujourd'hui moins bien définie. Il n'y a pas vraiment de positionnement clair. Et pour rester concurrentielles, elles ont peut-être rogné sur la qualité de leurs produits aussi. C'est le cas notamment d'Esprit, où des clients font état d'une baisse de la qualité des vêtements qui sont proposés. Et une chaîne comme Cassis et Paprika, qui est en réorganisation judiciaire, a sans doute tout intérêt à continuer de miser sur une offre centrée sur les grandes tailles qui font toute sa spécificité.
Alain, un petit mot ?
Oui, je pourrais rajouter de manière plus générale qu'en matière de stratégie d'entreprise, il y a trois voies possibles. Soit on essaie de dominer globalement les coûts pour essayer d'avoir les prix les plus bas possibles. Donc, c'est ce qu'on appelle la stratégie low cost des chaînes comme Primark, Shein, Temu, etc. ou du fast fashion. Soit, au contraire, on essaie de se concentrer sur une segmentation de clientèle particulière, souvent dans le haut de gamme et le luxe. Hein, c'est les stratégies des marques de luxe que tout le monde connaît, du groupe LVMH, Gucci, Armani, Hugo Boss, etc. Et alors, entre les deux, on a ce qu'on appelle les stratégies de différenciation, où l'idée, c'est d'attirer le client grâce à l'un ou l'autre élément de différenciation qui va être reconnu par le client comme source de valeur. Hein, c'est le positionnement de Geox, par exemple, sur base de sa différenciation technologique au départ des semelles micro-perforées, ou de Patagonia pour la différenciation au niveau plutôt de son engagement sociétal. Et donc, le problème de ces enseignes classiques que vous avez citées, Esprit, Camailleux, H&M, etc., elles n'ont pas vraiment ou n'ont plus de positionnement clair. Le client ne voit plus clairement pourquoi aller dans ces enseignes. Si c'est pour le prix, on va du côté des chaînes low cost et d'Internet. Si c'est pour le luxe, le haut de gamme, on va faire des chaînes plutôt haut de gamme ou en premium, comme G&Joy notamment, qui lui a clairement aussi un élément de différenciation, si je peux permettre, c'est l'attachement au pays, la belgitude qui est mise en avant.
Mais donc, est-ce qu'on peut dire que ce sont des magasins qui ont quelque part loupé le tournant de la vente en ligne, de l'e-commerce ? Est-ce qu'ils s'y sont mis trop tard ? Ou bien est-ce que leurs clients cibles ne les ont tout simplement pas suivis dans cette évolution, Alain de Crop ?
À ma connaissance, je ne pense pas que ce soit vraiment le souci, parce que ces chaînes dont on a parlé ont assez rapidement mis en place des systèmes d'e-commerce, de vente en ligne, etc. Le problème plutôt, c'est, je dirais, une absence de renouvellement de leur clientèle, hein, notamment auprès des jeunes, des générations Y, Z, qui sont plus friandes d'achats en ligne et qui sont davantage, de manière générale, davantage sensibles au prix et au choix lorsqu'ils font leurs achats de vêtements. Et donc, les enseignes comme Primark, Zalando en ligne, Vinted pour la seconde main sont très prisés évidemment par cette clientèle plus jeune, et ça s'est fait certainement au détriment de ces enseignes plus généralistes de moyen de gamme en matière de vêtements.
Pierre Emblaine, vous qui avez fondé une marque de vêtements, pour vous, est-ce qu'il est inconcevable aujourd'hui pour une marque de vêtements moyenne gamme de se développer sans un relais numérique, sans un site internet de vente ?
Alors nous, on est assez contents d'avoir déjà 12 ans d'expérience dans la vente en ligne, qui est clairement un autre métier que la vente physique. Et pour moi, oui, non, c'est inimaginable de ne pas avoir de présence en ligne. Encore une fois, dans notre cas, moyen haut de gamme. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que le online et le offline sont complètement compatibles et complémentaires de mon point de vue. C'est simplement que l'online est pour certaines personnes beaucoup plus pratique, dans le sens où c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. avec des services de livraison aujourd'hui qui sont super efficaces, super rapides. Néanmoins, le web n'est pas la panacée et la ruée vers l'or, dans le sens où bah voilà, Zalando a instauré au fur et à mesure des années un standard qui fait que le consommateur attend une livraison ultra rapide, que les retours soient gratuits et que ce soit normal qu'ils soient gratuits. Et donc, tout ça engendre pas mal de travail et de coûts supplémentaires qui viennent parfois concurrencer ce que pourrait être un loyer si on essaye de faire le parallèle avec le commerce physique.
Et Alain, le comportement des consommateurs, si on prend presque d'un point de vue sociologique, est-ce qu'on peut dire qu'il a changé vis-à-vis des marques ? Est-ce que les gens sont plus versatiles, moins enclins à être fidèles à tel ou tel type de vêtements ? Est-ce qu'ils privilégient l'achat coup de cœur ou d'opportunité ?
Mais je pense que dans un contexte socio-économique plus difficile, caractérisé par l'inflation, par une perte du pouvoir d'achat, les consommateurs doivent ou deviennent moins sensibles aux marques et plus sensibles aux prix. Et ce phénomène est renforcé évidemment par tout ce qui est achat en ligne qui permet facilement de comparer les prix. Donc, il y a certainement ce facteur économique qui intervient. Il y a également ce qu'on appelle le nomadisme, une tendance plus générale, là, quel que soit le secteur d'activité, des clients aujourd'hui à multiplier les enseignes, les marques, à être donc moins fidèles à une marque ou une enseigne en particulier.
Et puis, il y a aussi la hausse des coûts, Luc. Énergie, salaire, logistique, matières premières, de nombreuses enseignes y font référence lorsqu'elles évoquent leurs problèmes. Est-ce que c'est le premier facteur de fragilisation du secteur actuellement ?
Certainement, quand on interroge les responsables des chaînes, pas seulement dans le prêt-à-porter, je pense à l'Horeca aussi d'ailleurs, tous sans exception invoquent en premier lieu l'envolée des prix des matières premières et des salaires, qui ont augmenté d'environ 15% en moins de 2 ans. C'est certainement un des facteurs principaux de la fragilisation du secteur, qui se retrouve aussi confronté, Monsieur Amblène y faisait allusion tout à l'heure, à la concurrence des plateformes de vente en ligne qui sont moins intenses en main d'œuvre et dont la logistique est en général bien rodée. Et il ne faut pas oublier non plus la montée en puissance de la seconde main, qui a toujours existé, mais dont le succès grandit, notamment du fait de l'érosion du pouvoir d'achat.
Et vous, Pierre Amblène, vous avez vous-même dû fermer boutique à Liège, Namur et Charleroi. Vous vous êtes recentré sur la distribution de vêtements dans des magasins multimarques et sur Internet. C'est moins risqué et c'est surtout moins gourmand en argent, hein, donc c'est ça ?
Oui, après, bon, c'était un peu malheureusement à contre-cœur. Hein. Voilà, après, on n'aurait pas pu prédire ce qui allait se passer. Je pense que beaucoup de choses ont changé suite au Covid. Et donc, voilà, on est une petite entreprise malgré tout. L'important, c'était de pouvoir continuer d'exister. Et donc, voilà, on a fait les choix avec les moyens qui s'offraient à nous.
Le commerce de vêtements, Luc, finalement, n'est-ce pas une jungle de concurrents où le plus fort ou le plus malin gagne ? Il faut être extrêmement compétitif, non ?
Effectivement, les difficultés du milieu de gamme concernent d'ailleurs d'autres secteurs. Hein. Ça concerne en fait quasiment l'ensemble du commerce de détail. On pense à l'ameublement, à l'horeca, même à la grande distribution. Et effectivement, dans le prêt-à-porter, la concurrence est assez féroce. Et avec la crise, on assiste, on y a fait allusion tout à l'heure, à une espèce de polarisation de la consommation qui favorise soit des achats plutôt bas de gamme, d'un côté, avec ce que ça implique en termes de surconsommation, et de l'autre côté, de produits de luxe plus chers, mais en général plus durables, et donc pour lesquels on se rend moins souvent au magasin pour renouveler sa garde-robe. Donc effectivement, le contexte concurrentiel étant ce qu'il est, seuls les plus forts et les plus malins devraient survivre.
Donc Luc, vous avez un peu répondu, mais en conclusion, je me permets de vous interpeller tous. Les menaces ou les disparitions dans la moyenne gamme, ça ne concerne pas uniquement les enseignes de prêt-à-porter, donc, mais aussi d'autres secteurs comme la cosmétique, je pense notamment à Body Shop qui a connu des difficultés récemment, les magasins de déco comme Casa, par exemple. Donc c'est une tendance plus générale d'après vous. Qu'est-ce que vous en pensez tous ?
Si je puis me permettre, il faut éviter de généraliser parce que, bon, d'une part, ce phénomène de disparition, d'apparition de nouvelles marques, etc., existe depuis très longtemps. Hein. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de concurrence dans ce secteur. C'est certainement un des secteurs les plus concurrentiels de manière générale en Belgique, en France ou en Europe. Il y a encore une place, je pense, pour la différenciation. Et on le voit très, très bien d'ailleurs, hein, parce que vous évoquiez des cas d'échec, mais pour reprendre aussi le cas d'autres secteurs d'enseignes qui sont plutôt actifs dans le moyen de gamme, il y a aussi les success stories qui ne se démentent pas, hein, celles d'IKEA, de la Fnac, de Rituals, d'Histoire d'Or, etc. Autant de chaînes de moyens de gamme qui fonctionnent très très bien parce qu'elles ont gardé un élément de différenciation clair, synonyme et source de valeur pour les clients ciblés. On a aussi la possibilité de se différencier aussi aujourd'hui sur base de l'engagement sociétal. Hein, on a parlé du cas Patagonia par exemple de tout à l'heure. Et aussi sur base de ce qu'on appelle le lifestyle, penser au succès des chaînes là aussi dans le moyen de gamme comme Dile et Camille, comme Nature et Découverte, etc. Donc voilà, il faut être prudent par rapport à ce diagnostic qu'on pourrait porter de manière générale sur le moyen de gamme dans le domaine des vêtements.
Pierre, vous voulez rajouter quelque chose ?
Mais je le rejoins complètement en disant il faut pas être négatif à tout prix. Je pense qu'il y a plein de success stories et il faut pas s'arrêter sur 2, 3 ou 4 ou 5 enseignes problématiques dans la presse. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose que je remarque malheureusement, c'est que la presse parle plus souvent des enseignes à problème que de celles qui vont bien. Donc voilà, je pense que tout ne va pas mal. Mais effectivement, il faut bien s'accrocher pour le moment.
Je reconnais, il y a des contre-exemples dont on a d'ailleurs déjà parlé. Je pense spontanément à celui de Poincaré, par exemple, qui a été maintenant repris par Zeb et qui constitue avec Zeb le pôle textile de Colruyt, qui s'était fort démarqué à l'époque par une présence dans des localités plus régionales et qui avait très bien intégré le modèle omnicanal en intégrant la vente en ligne avec les magasins physiques. Voilà, c'est un exemple qui me vient à l'esprit comme ça.
Merci Luc Vendrich, donc vous êtes journaliste à l'Écho, merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci à vous Pierre Emblaine, fondateur de la marque de vêtements G&Joy.
Avec plaisir, merci.
Et merci Alain De Crop, professeur de marketing à l'université de Namur, de nous avoir accordé un peu de votre temps.
C'est avec plaisir, merci beaucoup.
Voici désormais ce qu'il faut retenir de cet épisode. Les marques de mode moyenne gamme font face à de nombreux défis qui mettent en péril leur survie. Elles sont notamment concurrencées par les nombreux sites de vente en ligne où l'ultra fast fashion règne en maître. Pour survivre, les marques de vêtements doivent donc être présentes en ligne avec un service de vente fiable, rapide et efficace. Enfin, l'image de marque est essentielle, en particulier dans le secteur très concurrentiel de la mode. Il faut se démarquer, se positionner clairement pour attirer les clients. C'est la fin de ce brief spécial. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et on se dit à bientôt. Salut!
À la recherche d'une solution de recharge pour vos employés, Total Energy lance sa nouvelle carte de recharge. Avec la carte de recharge Charge Plus Business, vous avez accès à plus de 500 000 points de recharge publics en Belgique et dans les pays voisins. Total Energy est votre partenaire pour les solutions de recharge au travail et au domicile de vos employés. Intéressé ? Contactez-nous via evcharge.totalenergy.be.